Ergötter!
Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Vous écoutez Ergot Radio en live de la cafétéria de l'Ergue, flambante neuve fabriquée par les élèves en master sculpture, qui d'ailleurs, on m'a demandé de le préciser, petit instant marketing, vendent des affiches qui sont vraiment splendides, sérigraphiées main, c'est pas cher, donc n'hésitez pas, il y a aussi un livre. Et puis bon, il y a du vin chaud et de la bière, parce que voilà, on est quand même là pour ça un peu. Voilà, nous accueillons maintenant donc, un groupe typographique, élèves, profs, chercheurs, archiveurs, qui vont nous parler de typographie, de recherche, de licence, de diffusion et de la toute nouvelle typothèque de l'ERG qui se met en place et qui se lance aujourd'hui même. Vous pouvez d'ailleurs voter pour un nom sur l'ordinateur qui est là-bas au bar. Et voilà, on va commencer par se présenter tous un peu. Merci d'être venu et qui êtes-vous, typographe ?
Bonjour. Donc je m'appelle Olivier Bertrand et je suis ancien étudiant de l'ERG. Je suis sorti il y a quelques mois et j'édite une revue de typographie qui s'appelle La Perruque depuis 2 ans.
Merci, moi c'est Ludie Loiseau, j'enseigne la typographie ici en bac 1 et en stage pour les étudiants stagiaires. Je donne aussi des cours de culture numérique. Et voilà, ça fait plusieurs années qu'on essaye de mettre en place cette petite collection de fontes, donc je suis très contente d'être là et d'en parler un peu avec vous. On va aussi parler un petit peu du projet de recherche de l'option typographie qui est mis en place cette année. Oui, je passe le tour de table avant.
Oui, bonjour, bonsoir. Je suis Laurent, étudiant à l'école de recherche graphique et on peut dire chercheur en typographie ou en tout cas dessinateur de caractères, avec un peu de modestie.
Bonsoir, je suis Louis, je suis étudiant à l'école aussi, en master 1 en typographie. Et je m'occupe aussi du fonds de documentation dont on va parler et de la typothèque, le futur site d'accueil de fontes étudiantes.
Et moi je m'appelle Martin et je me suis également occupé de travailler sur la typothèque, bien que je ne sois plus en typographie.
Ok, merci à tous d'être là. Bah écoutez, on va pas perdre de temps, je vous propose que vous commenciez directement à parler de votre sujet, donc allez-y.
Ok, donc peut-être juste pour préciser un petit peu le contexte. Cette année, c'est un bon moment aussi pour la mise en ligne de cette collection. Ça fait plusieurs années qu'on a des petits projets dans le cadre des cours ou des ateliers périphériques aux cours qui, à chaque fois, aboutissent à des dessins de caractères. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'il y a quand même vraiment une envie, une demande de la part des étudiants pour le dessin de caractères et d'avoir une formation ou des projets, des workshops qui mènent ou qui touchent à ça. Et donc cette année, en réponse aussi à cet engouement, enfin cet élan, le cours de typographie, enfin l'option, a mis ces jeudis en commun. Donc c'est-à-dire que 3 des 6 heures d'option sont données. Se passe en collectivement, c'est-à-dire dans une même salle avec les 3 enseignants de l'option et un croisement d'étudiants qui va de bac 1 à master 2. On a en fait démarré l'année avec un premier ensemble de direction et les étudiants ont petit à petit formé des groupes de recherche qui cherchent en fait à délimiter des pistes de travail, des pistes de travail du quadrimestre en vue surtout de l'organisation d'un séminaire qui aura lieu en février du 21 au 23. C'est un séminaire de 3 jours qui va s'organiser en workshop et conférence. Ça sera sur cet étage-là, en fait, puisqu'on aura des conférences le matin dans l'auditorium, qui seront ouvertes à tous, possiblement aussi à des personnes extérieures à l'école, dans la limite de l'espace disponible. Et l'après-midi, deux workshops en parallèle sur les trois après-midi. Donc la liste des invités est en construction, on est en échange avec des intervenants, des typographes, des programmeurs, des calligraphes digitaux, en tout cas des intervenants, des acteurs de la recherche typographique qui ont été identifiés par les étudiants eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait appel aux propositions, on répond aux propositions des groupes. Et donc cette liste d'intervenants sera publiée, on l'annoncera dès qu'elle sera un petit peu fixée. C'est fin février, donc que se passe l'événement. Et pour préciser un peu, peut-être vous pourrez me compléter, Louis, Laurent, pour donner quelques indications par rapport aux pistes de recherche qui sont en train de se creuser, quoi, dans ce travail de recherche. Les appellations vont encore changer, sans doute évoluer, mais on a une question autour du ductus folk, donc de la typographie vernaculaire, et d'une, que ce soit d'une scène ou d'une communauté spécifique. Comme point de départ de cette piste de travail, on avait un livre qui a été apporté par une étudiante, Marouchka Payen, qui s'appelle le Filipino Folk Foundry, qui est une publication manifeste, en fait, qui est publiée chez Hardworking Good Looking, qui est une recherche sur le lettrage, le peintre en lettres aux Philippines. Et c'est un ouvrage qui est plus édité, en fait. Enfin, il n'y a plus d'exemplaires. On a pu le commander à un moment donné chez Moto, mais il est en bout de tirage. Il n'y a pas de retirage prévu. C'est un objet assez chouette à voir parce que c'est tout super cheap. C'est une reliure spirale, des pages sur un papier d'assez mauvaise qualité. Mais il y a un point de vue, c'est-à-dire que c'est un ensemble, c'est une sorte de recherche, quoi, qui fait un état des lieux du lettrage en Philippines où on a en début d'ouvrage en fait clairement un manifeste sur cette approche, cette culture du lettrage qui est de plus en plus présente en fait là-bas, qui répond à ce besoin en fait de réappropriation de la population et des graphistes, des lettreurs locaux, de réappropriation sur cet alphabet latin qui leur a été apporté par le colonisateur espagnol. Donc il y a une bonne une espèce d'énergie comme ça d'un groupe spécifique et c'est assez beau à feuilleter. Il y a une deuxième piste de travail, je vais aller un peu plus vite sur les autres, hein, qui s'appelle le tracé paramétrique, où là on s'intéresse très fort on est plus sur du digital clairement et sur la question d'une sorte de ductus mais plus vivant avec des outils génératifs tels que Métafonte ou des systèmes aussi de langage qui touchent un petit peu à des objets ou des outils techniques comme des plotters.
Excuse-moi, Ludivine.
Ouais.
C'est quoi un ductus?
Le ductus, on n'arrête pas d'en parler et c'est vrai que c'est un mot un petit peu comme ça... ancien mais en même temps très précis qui définit à la fois en fait 4 ou 5 paramètres d'une forme de lettrage, à la fois la direction du tracé, l'angle de ce tracé. Quand on travaille en calligraphie, on a toujours un angle qui est défini en fonction de l'outil à utiliser, donc l'angle, l'ordre des différents tracés qui vont composer le signe, mais aussi la vitesse d'exécution, parce que j'ai cité les 5 paramètres, je crois. Ça, c'est le ductus. Et donc, un très beau film d'ailleurs de Jean Malon à regarder à ce sujet. On pourra le projeter à une prochaine émission typo. La troisième piste de recherche, c'est l'échelle de signe, où là, il est question de signalétique ancrée ou en tout cas empreinte d'une culture, qu'elle soit locale ou qu'elle soit liée à des événements politiques, ou avec entre autres comme référence Firfünf, John Morgan, voilà, de projet à la Documenta entre autres pour Firfünf. On a un projet qui s'appelle une piste de recherche qui s'appelle ou qui cherche un nom mais qui tourne autour de la question du formel, qui s'appellerait formal sign. C'est un petit peu quand le lettrage devient image, On est sur une scène un peu particulière. Renaud avait utilisé une belle formule pour expliquer un petit peu ce qui se tramait là, que j'ai pris en note, comme ça il disait, c'est un petit peu les niches culturelles qui se déclinent en grands principes narratifs. ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est une esthétique aussi très très particulière, avec une influence des jeux vidéo et de la culture asiatique. On a un peu repéré en comme acteur David Rudnick qui vient de New York, ou Baptiste Bernarzo qui agit en France. Et les deux dernières tracks sont Ergbats, qui est parti d'une recherche autour du nom latin et qui en fait s'intéresse à rassembler, s'intéresse à tout ce qui n'est pas signe latin, mais particulièrement à ce qui tourne autour des symboles et des emojis, des dingbats, des miscellaneous symbols, etc. Et l'Ergbat, c'est très très actif. Il est en train de se former en consortium et il a même prévu un workshop groupé jeudi prochain, le 14. Vous allez bientôt voir des affiches circuler. Parce que ce groupe s'intéresse à structurer, à construire une collection de symboles qui serait spécifique à l'ergue, à l'histoire de l'ergue, aux entités de l'ergue, au paysage de l'ergue, à la culture de l'école. Donc Ergbats va pas tarder à débarquer activement autour de vous pendant les portes ouvertes sans doute aussi. Et le dernier groupe, après je vous passe la parole, c'est promis, s'appelle Animatype. On travaille ici autour de l'animation en typographie, ou en tout cas un statut de la typographie qui est un petit peu entre le web, le génératif, la vidéo, et qui vient modifier un petit peu le rapport entre l'espace et la typographie. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de manière un peu succincte, mais ça donne une idée du champ de travail et des possibles. Et on espère qu'en tout cas, lors du séminaire, ça va un petit peu se cristalliser et nous donner en fait une sorte de programme de recherche pour cette option typographie à l'ergue, presque sur les 3 années à venir. Voilà. Est-ce que Laurent et Louis, vous qui êtes embarqués dans cette recherche, vous avez...
Oui, moi je fais partie du groupe Ergbats, du coup, dont tu as parlé, qui donc, s'attache à créer un alphabet, enfin, justement pas un alphabet, mais un certain nombre de glyphes, de dingbats, en lien avec l'école et aux mots symboliques de l'école, dans le genre pluridisciplinarité, etc. Et en fait, la question des workshops et de la production de typos pose forcément la question de l'archive, en fait, de ces différents caractères ou symboles qui sont créés durant le cours de typographie. Et c'est là que vient se placer, en fait, la typothèque, qui va changer de nom probablement dans la soirée, qui va se placer dans une démarche d'accueil et d'archivage de ces typographies sur le site internet et la plateforme, dont vous pouvez voir à l'écran, juste à côté de vous, les différentes évolutions avec un refresh permanent. Laurent, tu veux parler de ton groupe typo ?
Moi, je ne fais pas vraiment partie d'un groupe ou d'une piste de travail, parce que je n'ai pas vraiment réussi à me mettre quelque part, parce que je n'ai pas cherché à me mettre quelque part non plus, parce que je travaille un peu la typo dans mon coin. Mais je trouve ça justement intéressant de pouvoir avoir toutes ces pistes de travail. Ça permet de rendre la production typographique à l'ergue beaucoup plus officielle qu'elle ne l'était avant, je trouve. On met vraiment l'accent là-dessus, et il y a vraiment quelque chose de gros et de très chouette qui se monte en ce moment, je trouve. La typothèque en est aussi une des raisons, ou une des... Ouais. Mais voilà, oui, il y a vraiment quelque chose là-dedans, dans toutes ces pistes qui sont beaucoup plus chouettes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, depuis des années à l'air, qui travaillent sur des caractères, qui dessinent beaucoup, mais qui le font dans leur coin, qui rendent pas vraiment la chose visible. Et la typothèque permet aussi ça, c'est de rendre visible ce qui ne l'est pas forcément, les fontes qui sont moins, qui se distribuent moins que des fontes payantes ou libres, que ce soit sur d'autres plateformes que je citerai pas. Mais voilà, ça permet aussi d'avoir une banque de typographie qui soit exclusivement libre en plus, et dont les étudiants peuvent en profiter.
Donc la typothèque en fait de l'ergue, qui, si, c'est possible pour échanger de nom au cours de la soirée. Pourquoi elle existe ? Déjà, car elle s'inscrit dans le cadre d'une initiative qui a été initiée, je dirais, il y a bientôt 5 ans, par Marie l'Écrivain, qui s'appelle le Fonds de documentation et de lecture de l'ERG. Donc c'est une espèce d'archive, bibliothèque qui récolte mémoires, travaux, disques, CD, qui a un peu du mal à se faire voir, mais qui un jour ou l'autre sera pleinement accessible, on l'imagine. Et donc comme la typographie a un statut assez particulier, étant donné que c'est facilement copiable, ça a des coûts marginaux de reproduction qui sont totalement nuls. Contrairement aussi à des mémoires, des images, des vidéos, des sculptures, c'est beaucoup plus proche du logiciel que du produit culturel fini. Alors, on trouvait judicieux de produire une archive spécifique pour la typographie. Comment ça s'est passé ? Au lieu de réinventer la roue comme on peut le faire tout le temps, ici à l'ERG, on a essayé d'utiliser quelque chose qui existait déjà. Donc, c'est un système qui a été écrit, programmé par un ancien étudiant de l'ERG qui s'appelle Raphaël Bastide, qui s'appelle Ofont, donc qui est la machinerie qui fonctionne derrière un site qui s'appelle Use and Modify. Pour les amateurs de typographie libre, vous devez certainement connaître ce site, et vous verrez certainement les ressemblances avec notre équivalent local. Donc on a cloné ce système-là, on a essayé de le mettre un peu à notre sauce, en y intégrant des phrases très spécifiques à l'air, qui sont des phrases, comme on a pu les lire tout à l'heure en introduction de la soirée après-midi, qui viennent d'un cours d'écriture de première année autour de l'autoportrait. L'idée derrière ça, c'est que chacun puisse se réapproprier ses typographies. Vous allez vite voir, si vous prenez le temps de le visiter, le site, que beaucoup de typographies sont incomplètes et nécessiteraient une sorte de petit coup de main pour exister entièrement. Mais récolter tout ça d'une manière centralisée, ça permettra certainement de soutenir l'engouement typographique dont vous parliez juste avant.
Oui, et de compléter aussi ces typographies, enfin, du fait qu'elles soient publiées en licence libre et qu'elles soient publiées tôt, sans attendre et sans être forcément toutes complètes, ça permet à chacun de voir qui fait quoi, de voir où en sont les projets et puis d'essayer peut-être de faire équipe pour les aboutir ou les compléter. Les phrases, c'est vrai qu'on s'est un peu posé des questions par rapport à voilà, on n'a pas envie de, c'est une typothèque, donc visuellement on essaye d'être plutôt au service des typographies, de pas en rajouter des couches autour en identité ou en graphisme ou quoi que ce soit, donc c'est quelque chose d'assez sobre. Mais par contre, en termes de contenu, c'est vrai que ces phrases qui sont issues d'un cours d'Antoine Bout, des phrases qu'on aime beaucoup et qui sont un peu des bons coups de poing dans la gueule parfois, et qui ont une certaine qui portent une certaine tension qui donnent aussi un ton par rapport qui nous semble bien cohérent avec l'école. Ça nous semblait faire identité aussi voilà, par rapport à la typothèque. Après, on a encore plein de choses à changer, on a encore plein de fontes à uploader aussi. Mais il y a déjà presque 25 fontes, je crois, donc c'est assez chouette, on est super contents. Et on est super contents de les faire découvrir à Olivier ce soir, parce qu'Olivier, avec son projet de la perruque, reste aussi une des références pour nous dans les porteurs de projets typographiques en lien à l'ERG. Et peut-être on lui redonne la parole plus concrètement juste après une petite piste de son. Donc on a fait une sélection complètement, enfin, à la fois absurde, drôle et très multi-âge de pistes qui portent des noms de lettres ou d'alphabets.
Thank you.
Eh bien, je reprends le bâton que me tend Ludivine pour poser une question à Louis ou Laurent ou Martin. Louis, est-ce que tu as le micro ? Je trouve très intéressant le fait que vous fassiez émerger une production typographique d'il y a 4-5 ans, enfin, qui a 4-5 ans de vie déjà, et qu'aujourd'hui donc, vous rendez public. Un geste qui est vraiment pas anodin, puisque vous faites une typothèque donc, qui se base sur un outil qui existe déjà, pour lequel vous faites très peu de graphisme, très peu d'identité, et vous laissez parler les typographies dessinées par les étudiants. Vous laissez parler les typographies des étudiants en utilisant donc, ce travail d'écriture mené en première année. Ce que je me demande, c'est est-ce que vous êtes conscient de l'identité typographique que vous êtes en train d'affirmer par ce geste de la typothèque, qui me semble tout à fait particulière en comparaison au paysage typographique des autres écoles environnantes, soit à Bruxelles, soit en France, ou aussi un peu plus proche en Hollande, etc., qui a l'air, en tout cas me semble-t-il, très bruxelloise, un peu bancale mais charmante, et... Il y a du brol, mais c'est très généreux.
Écoute, merci pour ta question, Olivier. Oui, c'est l'identité de l'école qui transpire à travers ça, en fait, d'être cette singularité, de pas trop se poser de questions non plus quant à cette structure-là qu'on peut récupérer, et surtout d'avoir la richesse qui constitue toutes les orientations de l'école, c'est cette diversité, ces champs d'action ouverts et c'est ce qui transpire à travers la typothèque, à travers la richesse typographique de ces 5 dernières années et des dons, surtout parce que on a récupéré pas mal de choses, que ce soit les textes de la typothèque, les contenus, comme on parlait tout à l'heure avec Antoine Bout, comme les lettrages, c'est des dons, c'est des récupérations, et ça va dans le sens en fait de la politique de l'école de montrer ça, quoi, et d'affirmer en fait cette identité. Donc conscience, oui, dans un sens, mais bon, en même temps, c'est, c'est de ce noyau et de tout ce qui gravite autour de l'école qui, voilà, qui se met à l'image, en fait. Lydie, tu...
Ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est en tout cas tout le temps que des projets qui ont été dessinés dans le cadre de cours ou de workshops à l'intérieur, enfin, qui ont été menés à l'école, ou qui sont quand même en tout cas très souvent tout le temps liés à quelque chose. C'est pas des projets autonomes développés par des étudiants par après ou sur le côté, c'est toujours vraiment lié à une initiative, un point de départ erguien. Et je crois qu'effectivement, on est complètement inconscient, mais en fait, peut-être tant mieux, enfin, parce que on n'a pas tellement réfléchi à ça. En tout cas, on n'a jamais, ou moi, pas en tout cas, cherché à me positionner ou à positionner cette collection ou ces travaux par rapport à une scène, qu'elle soit française, hollandaise ou gantoise ou je sais pas. Le seul truc qui est super clair, c'est que c'est un truc un peu de punk, dans le sens où on y va à fond, on publie les choses dans l'état qu'elles sont. Bon, il y a des choses qui sont super bien calées, avec un interlitrage qui tient la route, des approches ok, et des bas de case des capitales, la ponctuation. Mais il y a des travaux qui sont très complets, d'autres où c'est juste les capitales, mais dans l'ensemble, c'est toutes des fontes vraiment utilisable, c'est aussi ça. C'est vrai que c'est pas juste une collection où chacun peut y verser ce qu'il veut, et ça on l'a pas tellement mentionné jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait pour publier une fonte sur ce site, pour l'instant c'est une espèce d'équipe d'éditeurs qui est un peu informelle, qui est composée voilà, de Laurent, Martin, Louis, Nelson, peut-être moi, ouais, qui en fait prenons quand même le soin d'ouvrir ces fichiers, de regarder, ne serait-ce que si le champ des infos à l'intérieur de la typographie est complet, quoi, pour que ces fichiers puissent circuler vraiment beaucoup, le plus possible, mais qu'à chaque fois on puisse dire ah c'est la fonte de Louis, je vais le recontacter, il y a un problème, ça s'est dit, elle est super étrange, ou en tout cas qu'il y ait un dialogue, c'est vraiment l'idée de créer des liens, que chacun puisse tiens, prendre une fonte d'un autre, la modifier. C'est aussi pour ça qu'elles sont ouais, toutes publiées en licence libre. Le truc auquel on n'a encore pas du tout pensé et qui fait peut-être plus le lien avec ta pratique, c'est que voilà, c'est une collection en ligne, mais on n'a pas du tout, alors que pourtant depuis cette année on a un fabuleux outil à l'école en plus qui s'appelle le Print Lab, où on a une risographe, des plotteurs et tout ça, on n'a pas encore pensé à peut-être faire une sorte de catalogue ou à publier, à éditer des choses en lien avec ça. Donc on est tout à fait preneur de conseils par rapport à ça ou d'un croisement avec la perruque ou je sais pas, mais en tout cas c'est vrai qu'on n'a pas pour l'instant penser à ça, on peut pas penser à tous les supports d'un coup, mais voilà. On se demandait aussi où en était la perruque, à quel numéro, et si tu savais nous donner des infos secrètes sur les prochains invités et tout ça.
Peut-être que tu peux présenter un peu aussi le projet.
Ouais, le projet La Perruque.
La Perruque, c'est une revue que j'édite depuis 2 ans. Et qui publie des spécimens de caractères typographiques. Chacun des numéros est un spécimen de caractères typographiques dessiné par un dessinateur de caractères différent à chaque fois. Et pour peut-être expliciter un peu les intentions éditoriales de la revue, je tiens à publier des spécimens de caractères qui sont décomplexés, et qui tendent à montrer une pratique typographique, on va dire, émergente, ou en tout cas un portrait contemporain de la typographie, a priori jeune typographie, pour l'instant en tout cas. Peut-être pour préciser ce qu'est un spécimen de caractère typographique, c'est donc un objet imprimé qui reproduit à différentes échelles, à différentes tailles, à différents corps typographiques des fontes, et sous différentes formes. Généralement, il s'adresse à des graphistes, ou en tout cas des utilisateurs à des fins commerciales. C'est-à-dire, l'idée est quand même de pousser, ou en tout cas d'inviter à acheter la fonte, en montrant comment est-ce qu'elle marche bien ou pas bien. Et La Perruque cherche à faire des spécimens qui sont des espaces de promotion de la typographie, mais pas de vente, et qui, plutôt que de mettre fin à un chantier de création de caractères qui est parfois long et laborieux, plutôt que de l'achever, proposer une poursuite. C'est-à-dire que si le travail est une histoire, alors le spécimen en est peut-être la poursuite de cette histoire sur des terrains qui sont soit conceptuels, formels ou poétiques ou que sais-je.
Et peut-être tu peux parler du format. Peut-être tu peux parler du format très spécifique le support papier, enfin qui est lié à ton autre projet d'édition. Peut-être parce que c'est vraiment un objet reconnaissable. Enfin, c'est une bande de papier très longue qui.
Oui, c'est donc une bande de 1 cm par 90. C'est un objet assez complexe, ou en tout cas pas habituel, hors norme. Hors norme, justement, parce qu'il provient d'une économie à l'alternative. C'est-à-dire que ces bandes de papier étaient censées être des déchets de l'industrie de l'imprimerie. En fait, ce sont des espaces que je deal auprès des imprimeurs. Des espaces vacants en marge des impressions de leurs clients. Lorsqu'il reste de la place sur la planche d'impression, eh bien je glisse les fichiers des numéros de la perruque. C'est imprimé en même temps que l'impression du client, puis c'est coupé et je récupère cette fine bandelette qui est un terrain vraiment aride pour expérimenter la typographie, mais qui en même temps justement pousse à généralement les spécimens sont
à des choix
ouais, extrêmement affirmés ou singuliers parce que le format est contraignant.
Et la perruque, juste pour rappeler, c'est vraiment le terme qui signifiait ça, c'est-à-dire mettre à profit du temps ou de la matière. J'y vais en impro hein, de l'usine, enfin c'est un terme qui est utilisé par le monde ouvrier, donc mettre cette matière ou ce reste à profit pour son propre usage, quoi, c'est ça pour...
Oui, c'est ça, c'est un détournement, c'est-à-dire que normalement, ce que je fais ne sont pas des vraies perruques, dans le sens où je ne suis pas un ouvrier d'imprimerie qui détourne des chutes de papier imprimées, mais je m'inspire de ce principe. Comme principe économique de publication. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la complicité qui doit être en place pour que la perruque puisse se faire.
Est-ce que justement, ouais, à propos du nom, on peut faire un petit point, Martin ?
Ouais, parce que Olivier, t'as le don pour trouver des noms qui sont vraiment géniaux. Je t'avoue que la perruque, c'était cryptique quand tu connais pas bien le. Quand tu n'imagines pas la portée, je dirais, prolétaire de ce terme-là. Mais du coup, on a essayé de construire un système, bon, que je dois admettre assez bancal, mais pour que on puisse tout aujourd'hui, quoi, jusqu'à ce soir, on va le laisser tourner, choisir un nom pour cette archive typographique qu'on appelait jusqu'à il y a quelques semaines la typothèque de l'ergue ou la typothèque du fonds de documentation et de lecture de l'ergue.
Toute l'équipe, déçu, là, parce que...
l'équipe éditoriale qui travaille sur ce projet, disons, était pas super fan du nom typothèque. Mais là, je ne sais pas si c'est un bug de mon système de vote, mais ce serait pourtant ce qui sortirait en premier.
Donc peut-être on peut expliquer aux gens qui sont en train de voter ou pas, ou aux gens qui potentiellement pourraient proposer d'autres noms qui sont là. Pourquoi typothèque, en tout cas, pourquoi moi ça me plaît moyen, parce qu'en fait je trouve que typothèque c'est un truc, c'est super bien rangé, ça sonne comme un truc super bien rangé avec des tiroirs avec un tout petit peu de poussière comme ça sur le dessus où on tire et les trucs sont bien mis et tout, alors qu'en fait la typothèque de l'école elle est pas comme ça.
C'est plutôt l'inverse.
Il y a des fûts cassés, il y a des panses qui tombent, il y a des jambes de bois, donc on avait un peu envie que ça ressorte. Par exemple, pour donner la liste, ouais, toi, t'as les titres, Martin.
Là, j'ai une liste, mais qui est complètement cassée, elle aussi, un peu comme la typothèque, et un peu comme cette archive et les typographies qu'elle contient. Et l'école aussi, merci Louis. C'est cassé, mais ça marche un peu quand même. Donc, il y a droite courbe, typothèque, qui est le grand vainqueur pour l'instant, assez tristement. Chasse ouverte,
Basic Font, qui est un petit jeu de mots quand même bon, un peu facile. Merci Léo. Puis en stock ou atypique, et on peut encore en rajouter des propositions. Bon, de toute façon, on va laisser tourner ça longtemps, même peut-être jusqu'à demain, quoi, parce que.
Ouais. J'aime beaucoup chasse ouverte, qui je trouve assez intéressante.
Ce qui est pas mal avec sèche ouverte, c'est que ça parle de licence, mais est-ce qu'on a le temps de passer une petite piste de son avant de se faire un sandwich de licence là? Un petit écho au titre Chasse ouverte, au nom possible de la typothèque, la chasse ouverte. Ce qui nous intéresse dans la chasse ouverte, c'est qu'elle est ouverte et que cette ouverture, elle fait référence aux licences qui sont celles associées aux typographies qui sont collectées là, dans notre collection. En fait, on a un mélange de différentes licences. Il y a des fontes qui sont... Donc on va pas rentrer dans le détail, mais pour en lister quelques-unes, on a des fontes qui sont sous licence OFL, c'est Open Font License, qui est une licence spécifiquement dédiée à la typographie digitale. On a des fontes qui sont en Creative Commons, avec différents niveaux, et puis on a des fontes sous licence Art Libre, et même, j'ai vu un autre cas dont j'ai oublié le nom, mais sans licence, il y en a très peu quand même, parce qu'on a quand même pas mal bataillé pour que ça soit super clair. Mais ce que me rappelait Olivier, en fait, la principale différence entre des fonds en licence privative et des fonds en licence libre, c'est que les fonds tels que sous licence, par exemple, ULA, 3615 ULA, sont en fait des fonds qui limitent l'utilisateur, qui est considéré comme un end user, donc un utilisateur de bout de chaîne, à qui on autorise d'utiliser la typographie sur sa machine, éventuellement sur 2-3 postes dans son studio, mais qui ne lui permettent jamais de prendre la main ou de proposer de modifier le dessin. Alors que les fonds en licence libre, en fait, sont presque, plutôt au contraire, une invitation envers l'utilisateur pour compléter ses fonds, en faire des diversions, des variantes, des familles. Donc ouais, c'est la principale différence. Après, je sais que c'est aussi un peu, ça peut être perçu à l'inverse aussi comme un choix un peu de dictateur, de dire les fonds de cette fonderie sont que en licence libre, ok. Et c'est vrai que c'est un choix politique un peu peut-être violent. On pourrait le prendre comme ça si on se met de l'autre côté aussi. Mais c'est aussi techniquement un truc qui pour nous serait problématique à gérer. Peut-être Martin, tu peux en parler un instant.
Ouais, bon alors déjà éthiquement, bon pour ceux qui naviguent dans l'ERG depuis quelque temps, vous aurez compris qu'on a quand même tendance à favoriser des outils, je dirais ouverts et libres, même certains outils locaux parfois. Le problème qu'il y aurait si on utilisait en fait des licences qui ne seraient pas libres, c'est que il y aurait quand même toujours une possibilité de les récupérer. Du moins, tant qu'on garde sur le site lui-même la possibilité de tester sa propre fonte, ce qui est une fonctionnalité qui est sur n'importe quelle, sur quasiment la plupart des collections de fontes en ligne. En fait, c'est un des avantages du web de pouvoir essayer le mot qu'on va imprimer ou qu'on est en train de designer avec la typo elle-même. Et qui dit essayer dit que la typographie en fait entière est chargée dans son ordinateur lorsqu'on se rend sur le site. Donc finalement, en dehors des aspects éthiques qui pourraient effectivement être vus comme quelque chose de super autoritaire en fait, de forcer les gens à ce que leur typographie, si ils veulent que ils ou elles veulent que ça soit publié, utilise une licence libre. Alors il y a aussi un aspect technique qui nous oblige à devoir utiliser ce type de licence. Après,
il y a sans doute des solutions, mais c'est vrai que c'est rajouter une complexité à l'outil qui, pour l'instant, est assez simple, qui charge dans le navigateur effectivement les fontes et qui rend le truc assez fluide, avec pas plein de niveaux de licence.
Puis, de toute façon, il existe tellement de licences différentes que je suppose que chacun peut y trouver son compte. Après, évidemment, ça demande de s'y intéresser un minimum et c'est souvent rédigé dans un vocable qui est indigeste, en fait, tout simplement, celui des textes de loi. Mais pour toute création artistique, il faut savoir s'intéresser un peu aux questions de propriété, en l'occurrence de propriété intellectuelle.
Ce que je trouve intéressant dans ce geste que vous faites, qui peut paraître autoritaire, mais peut-être pas complètement. C'est aussi une école et le fait de laisser ouvertes les choses, c'est aussi une circulation du savoir qui est, ce serait dommage de s'en priver étant dans un espace de pédagogie. Et puis je crois qu'aussi la grande qualité de ces licences libres est de favoriser un terrain ou la constitution d'une communauté. Et les communautés sont intéressantes parce qu'elles sont hétérogènes, elles dialoguent en interne et avec l'extérieur. Et c'est ce que la typothèque est en fait. La partie visible de cette communauté, quoi. En ligne en tout cas.
Et il y a aussi quelques super fontes téléchargeables sur la perruque. Ou alors il faut faire une demande, mais assez facilement, en tout cas en échange, j'ai téléchargé la... J'ai oublié son nom.
La petite mort.
Ouais.
Ouais. De Johan Mina. Ouais. Oui. Alors La Perruque est une revue, a priori, ce n'est pas une fonderie qui distribue ou un distributeur de caractères. Mais comme je m'intéresse de plus en plus à la distribution de produits digitaux sous licence libre, au sein de la revue, j'ai essayé d'expérimenter des circuits de distribution de fonte alternatifs ou en tout cas manifestes. Donc, quand ça fait sens, si c'est pertinent, alors la revue distribue des fontes et sous licence libre, oui, sous licence libre.
Et alors, ce que je trouvais super, peut-être un dernier point à mentionner avant d'envoyer du son, parce qu'on a tellement, on a ces super pistes hein, en lien avec des lettres. On peut pas, en tout cas, on peut pas, pour moi, quitter l'émission sans avoir passé de Sound of Sea. Ce que je voulais te dire, c'est que dans cette typothèque de l'ERG qui va trouver un nom bientôt, il y a pas mal de fontes qui sont dessinées par des filles, et ça fait vraiment plaisir. Et je sais que peut-être bientôt, en tout cas, on en avait parlé une fois comme ça informellement avec Olivier, dans La Perruque aussi, il y aura des typographies un jour ou bientôt. Et donc voilà, c'est une préannonce, mais sans rien dire comme ça. Mais
et venez nous voir et donnez-nous des fontes. Enfin, on est ouvert, on est venez.
Ouais,
il n'est pas fini. Donnez, tout le monde, s'il vous plaît.
Envoyez vos fontes. Longue vie à la...
Ouais, envoyez vos fontes et vos vies. Bonne soirée.
Même, il y a aussi, s'il y a des gens qui sont intéressés, tout simplement par le fait de participer à ce projet-là, en fait, il y a besoin de plein de choses différentes. On peut tout faire, à peu près comme dans n'importe quelle initiative de l'école. Et encore une dernière relan autoritaire, même si le mot typothèque a été voté 15 fois, je vais faire comme s'il n'existait pas du tout. Et
pour l'instant,
c'est Chasse ouverte qui est en tête. C'est plutôt mignon. Quoi.
Merci à vous, les typographes. L'émission se clôture, mais la chasse ne fait que commencer. Et après un peu de musique, on se retrouve pour le film Animaux des Masters Culture. Merci.
This is a sound of sea. This is a sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music. This is a sound of sea. This is a sound of sea. of C. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.